Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Nature sauvage et ça m'intéresse. Au programme, les créatures de l'Empress of Ireland, une épave en vie et comment on élève une forêt. Bonne écoute.
Les créatures de l'Empress of Ireland, une épave en vie. Un texte de Pierre Bonneau, paru à l'automne 2021 dans le numéro 53 du magazine Nature sauvage. Dans les eaux remuantes de l'estuaire du Saint-Laurent, à 7 km au large de Sainte-Luce, repose depuis plus d'un siècle l'épave de l'Empress of Ireland. Coup d'œil sur quelques-unes des créatures qui hantent aujourd'hui les ruines de ce défunt navire. Par une nuit brumeuse. Dans la nuit du 29 mai 1914, après avoir quitté Québec la veille en direction de Liverpool, en Angleterre, la vigie de l'Empress of Ireland voit venir au loin un autre bâtiment, le Storstad, un charbonnier norvégien qui remonte le fleuve. Les deux navires, tout juste avant de pénétrer dans un épais brouillard, signalent respectivement leur position et manœuvrent à ce qu'affirmeront leurs capitaines respectifs de manière à se croiser à bonne distance. Ce qui se passe ensuite reste encore un mystère. À tribord, l'équipage du paquebot voit soudain surgir le Storstad fonçant droit sur lui, impossible d'empêcher la collision. Éperonné en son centre, l'Empress coule en moins de 15 minutes, emportant dans la mort 1012 de ses quelques 1500 passagers. Son naufrage constitue la pire tragédie maritime en temps de paix de l'histoire du Canada. Quelques semaines suivant la catastrophe, une équipe de scaphandriers dynamite une section de la coque afin de récupérer des lingots d'argent et le courrier à destination de l'Europe. Ce trou, un parmi d'autres que perceront les chasseurs d'épaves et le travail du temps, est un endroit prisé des plongeurs car il permet de s'introduire à l'intérieur du navire. Couché sur son flanc de tribord dans un lit de gravier, battu par les forts courants du fleuve, l'Empress of Ireland, jadis un somptueux transatlantique, fait maintenant peine à voir. Défiguré par les ravages du temps, éventré en maints endroits, sa dépouille a été l'objet, durant plusieurs années, de l'attention de chasseurs d'épaves. Sa désignation en tant que bien culturel et lieu historique national a mis un terme aux fouilles des collectionneurs, si bien que désormais les visites se font beaucoup plus rares. Seuls les plongeurs désireux d'éprouver l'envoûtement que procure de tels sites mythiques se risquent à fréquenter les vestiges du malheureux navire. Or, des milliers de créatures les épient. Un champ de patates de mer. Gisant à seulement 45 mètres sous la surface, on pourrait croire que l'Empress, à l'image d'innombrables épaves des mers du Sud, accorde aux explorateurs le loisir de prospecter son imposante structure tout à leur aise. C'est pourtant mal connaître le tempérament du fleuve. À cette hauteur, courants de fond et marées s'unissent à une eau froide pour rendre hostiles et imprévisibles les conditions. Même en plein jour, l'épave est le plus souvent dans l'obscurité, conséquence des remous qui brassent les sédiments et l'enveloppent d'un nuage de débris en suspension. Quand les flots s'apaisent enfin, la silhouette imprécise de l'impératrice se démasque, mais jamais dans son ensemble, la visibilité ne se limitant qu'à quelques mètres. Robert Lassalle, un plongeur qui a exploré l'épave à plusieurs reprises, décrit la situation. Dès qu'on aborde le navire, le meilleur moyen de s'orienter consiste à suivre la longue arête qui fait la jonction du pont avec la coque. si le vaste tapis d'hydrozoaires, de bryozoaires et de patates de mer qui recouvre la coque est sur la gauche, c'est qu'on se dirige vers la proue. Si le champ de patates est sur la droite, c'est qu'on va vers la poupe. Bien qu'ils aient l'apparence d'algues, les hydrozoaires et les bryozoaires sont en réalité des animaux minuscules qui présentent l'aspect d'une prairie de mousse lorsqu'ils s'établissent en larges colonies. Il en existe de nombreuses espèces dans l'estuaire, aux formes et coloris très variables, ce qui les rend difficiles à identifier. Celles qui se sont ancrées sur l'Empress n'ont jamais été répertoriées avec précision, mais la présence de l'hydroïde en massue et du bryozoaire en buisson y est fort probable. Malgré leur allure rudimentaire, ces animaux ont un cycle de vie et un mode de reproduction passablement complexe. Le phytoplancton constitue leur aliment de base alors qu'ils sont eux-mêmes au menu d'une diversité de poissons et de plus volumineux invertébrés. La patate de mer, quant à elle, ne prête pas à confusion. Les plus gros spécimens se trouvant à des profondeurs qui dépassent 20 mètres, ceux qui peuplent l'Empress sont par conséquent de bonne taille. Cet animal se reconnaît aisément à sa forme de ballon de 4 à 6 cm de diamètre qui s'agite au gré de l'onde au bout d'une tige atteignant 30 cm de longueur. La patate de mer, comme sa proche parente la pêche de mer, possède deux courts tubes, l'un servant à aspirer l'eau en la dirigeant vers le pharynx, l'autre à l'expulser, le flux ainsi créé lui permettant de filtrer ses aliments. La pêche de mer se différencie de sa cousine par l'absence de tige. À leur stade, de larves planctoniques, les jeunes patates et pêches de mer sont nageuses et prennent la forme de microscopiques têtards. Ce n'est que plus tard qu'elles se fixeront sur un substrat solide pour se métamorphoser en adultes. Une autre locataire de l'Empress, Cécile, elle aussi, à l'âge adulte, est l'éponge verruqueuse. Cette espèce relativement massive est constituée de multiples canaux où l'eau circule en apportant les nutriments dont l'animal se nourrit. En prime, ces oscules, les grandes ouvertures excrétoires à sa surface, offrent un abri à une variété de caprelles, de minuscules crustacés, pendant que ses replis servent de pouponnière aux chat-boisseaux, des poissons aux allures rébarbatives qui y pondent leurs œufs. Écoutez « Les créatures de l'Empress of Ireland », une épave en vie, un texte de Pierre Bonneau, paru à l'automne 2021 dans le numéro 53 du magazine Nature sauvage. Des baleines en profondeur. L'Empress of Ireland est l'hôte d'un autre type de créature sessile amarrée à sa carcasse, des baleines. Ces animaux s'établissent d'ordinaire à faible profondeur, particulièrement dans des zones exposées aux marées telles les côtes rocheuses, les piliers de quais ainsi que les coques de bateaux, qui n'ont pas encore sombré. C'est pourquoi les biologistes marins s'expliquent mal pourquoi l'épave de l'Empress en est couverte à plus de 40 mètres sous la surface. Il existe de nombreuses espèces de baleines et leur identification, à l'instar des hydrozoaires et des bryozoaires, est ardue. Une fois son stade de larve nageuse achevé, la jeune ballonne s'attache à un support résistant et s'enrobe de plaques calcaires dont deux sont amovibles de manière à permettre aux pattes thoraciques, les cires, de poindre afin d'attraper sa nourriture. Pour mieux se figurer une ballonne adulte, il faut s'imaginer une crevette sans yeux, étendue sur le dos dans un abri calcaire de sa fabrication et munie de pattes pointant vers le haut. Des prédateurs qui font la loi. Sur l'épave, les étoiles de mer sont probablement les plus redoutables prédateurs, toujours prêtes à dévorer un mollusque en introduisant leur estomac à l'intérieur même de la coquille. Voraces, elles en ingéreront jusqu'à une dizaine par jour si elles en ont l'occasion. Dans l'estuaire, deux espèces sont abondantes, l'étoile de mer commune et l'étoile de mer polaire. Généralement, elles se distinguent d'un simple coup d'œil par le nombre de bras. 5 chez la première, 6 chez la seconde. Attention, toutefois, des exceptions à la règle sont possibles. Une autre étoile de mer, d'un diamètre de 20 cm, de moitié moindre que les deux étoiles précédentes, est l'Astérie rouge sang qui, malgré son nom, se décline également dans les tons de jaune ou d'orangé et est parfois mouchetée de blanc. Quelques espèces d'anémones, dont l'anémone rouge du nord et l'anémone marbrée, font aussi de l'Empress leur territoire de chasse. Grandes prédatrices, elles n'ont rien à envier à la réputation des étoiles de mer, étant même aptes à capturer de petits poissons à l'aide de leurs tentacules venimeux. Les crabes araignées, encore que de mine patibulaire, ne sont pas des prédateurs aussi formidables que les étoiles de mer et les anémones, préférant se nourrir d'organismes morts plutôt que de proies vivantes. La profondeur de l'épave étant à la limite de leur habitat, on ne les trouve guère plus profondément dans le fleuve. Deux espèces, de surcroît malaisément distinguables, se partagent cette appellation de crabe araignée, Ias araneus et Ias coarctatus, la première se signalant par sa plus grande taille. Toutes deux se reconnaissent à leurs longues pattes, à leurs pinces étroites et à leur coloration orangée. Algues, balanes et éponges s'installent souvent sans gêne sur la carapace de ces crabes, qui les tolèrent par ailleurs puisqu'elles leur procurent un camouflage efficace contre les poissons, leurs principaux prédateurs. Poissons rougeâtres, poissons invisibles. Le folklore entourant l'Empress of Ireland a donné naissance à certaines histoires lugubres dont celle voulant que des requins du Groenland aient rôdé autour de l'épave dans les semaines suivant le naufrage, attirés par la présence des infortunés passagers n'ayant pu s'échapper du navire. Aujourd'hui, aucun squale ne fréquente ces ruines en espérant y trouver sa pitance. Par contre, de plus petits poissons, tels que le sébaste acadien, l'ogac ou morue de roche, et le chaboisseau à épines courtes, également surnommé crapaud de mer, y cherchent abri et nourriture. Ce sont les sébastes, d'un rouge orangé mais aux yeux bleu ciel, qui semblent les plus nombreux, sinon les plus visibles, patrouillant en petites bandes dans recoins et dépressions. Un œil attentif repérera pour sa part un chaboisseau immobile sur l'épave. Véritable caméléon marin, ce poisson prend la couleur du milieu sur lequel il repose, accomplissant ce tour de mimétisme grâce à des cellules spécialisées, des chromaphores, qui, en altérant leur conformation, modifient l'aspect des pigments qu'elles renferment. Un cimetière qui regorge de vie. Il est heureux que l'épave de l'Empress of Ireland soit désormais un site protégé. Ultime sépulcre de centaines d'hommes et de femmes, l'épave a tous les attributs d'un cimetière que la nature s'est empressée d'embellir d'une foule d'invertébrés et de poissons qui égayent maintenant les lieux lorsque les puissantes lampes des plongeurs percent les ténèbres. Comme l'exprime avec justesse le plongeur Dominique d'Envoi, dans l'environnement inhospitalier où gît l'Empress, saluer l'épave est une chose, mais documenter visuellement sa visite représente un défi bien plus grand. C'est quand on revient sur la terre ferme et qu'on étudie attentivement ces photos qu'on réalise à quel point la vie a accaparé le navire et l'a transformé en jardin sous-marin. Puisse l'Empress of Ireland demeurer ainsi encore longtemps. C'était « Les créatures de l'Empress of Ireland, une épave en vie », un texte de Pierre Bonneau, paru à l'automne 2021 dans le numéro 53 du magazine Nature Sauvage. Comment on élève une forêt? Un texte de Frédéric Boursicot, paru en janvier 2023 dans le numéro 503 du magazine Ça m'intéresse. Au cœur de l'Allier, la forêt de Troncet abrite les plus beaux chênes de France. Leur bois d'une extrême qualité est le produit du travail séculaire des forestiers. Le lot numéro 57 est attribué à la société Sogibois pour la somme de 1 111 891 euros. En quelques mots, 239 chênes de la forêt de Troncet, Allier, sont vendus à l'un des leaders du travail du bois en France. Des applaudissements saluent le prix record engagé pour une parcelle de cette remarquable forêt, trésor national de 11 000 hectares qui abrite 300 000 chênes de plus de 150 ans. Ce bois est extraordinaire, résume Jérôme François, l'heureux acquéreur. Comme chaque année en octobre, l'Office national des forêts, ONF, institution qui gère le quart des forêts françaises, organise à Sérilly la vente des arbres arrivés à maturité dans la forêt de Troncet. Grâce à leurs grains extrêmement fins, conséquence d'une croissance très lente, ces bois légendaires sont très homogènes et faciles à fendre. Ils sont particulièrement recherchés, notamment par les producteurs de poteaux pour les moules de bouchot, mais aussi par les ébénistes travaillant sur des ouvrages d'exception. 26 chênes de la forêt au tronc long et droit ont d'ailleurs été sélectionnés pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Certains d'entre eux, germés sous Napoléon, serviront pour la flèche la pièce la plus délicate de la charpente. Cette finesse de grain séduit aussi la méranderie, c'est-à-dire les artisans produisant les lattes nécessaires à la fabrication des tonneaux de vin et d'alcool de qualité. Pour faire vieillir nos vins, explique Hélène Guénin, directrice technique du domaine Château-Latour, nous recherchons du bois sans nœud, afin d'éviter les fuites sur nos fûts, mais aussi des essences capables de libérer des composés aromatiques, des tanins spécifiques qui apporteront une astringence délicate à nos produits. Les plus poètes des mérandiers évoquent le boisé aux notes de noix de coco, de vanille et de réglisse du chêne Cécile, essence majoritaire des bois de tronçais. Un mode de gestion inventé au 19e siècle. L'existence de la forêt de tronçais ne doit rien à la chance. Fruit du travail de forestier inspiré, son histoire prend forme avec Colbert qui, au 17e siècle, est en quête de bois pour constituer une armada en mesure de tenir tête à la flotte britannique. L'intendant des finances de Louis XIV repère alors la forêt de tronçais. Cet ensemble pastoral n'a rien d'extraordinaire à l'époque, sinon sa surface. 10 000 hectares de bois, ça ne courait pas les rues, explique Alain Macaire, président de l'Association des Amis de la forêt de Tronçais. Le plan de gestion de Colbert conduira, hélas, en 50 ans, à la quasi-destruction de la zone. Jusqu'en 1832, où Joseph-Louis de Buffévant comprend que laisser la forêt repousser naturellement, après une coupe rase, génère surtout du taillis. Le maître des eaux et forêts conçoit alors le principe de la forêt mosaïque, composée d'arbres à différentes étapes de leur vie. La futaie régulière de tronçais est née. Vous écoutez « Comment on élève une forêt », un texte de Frédéric Boursicot, paru en janvier 2023 dans le numéro 503 du magazine « Ça m'intéresse ». Les forestiers sélectionnent et favorisent les plus beaux arbres. Dans le massif, le paysage change du tout au tout, en quelques centaines de mètres. On passe d'une forêt touffue à une chênaie cathédrale aérée, où les troncs s'élancent vers le ciel, puis à un taillis touffu d'où surnagent quelques troncs fins. Cette méthode de sylviculture est celle de la futaie régulière. Elle consiste, sur chaque parcelle, à conserver des arbres d'âge identique. L'idée est de constituer une forêt mosaïque où se succèdent des zones à des stades de développement différents. Explique Bertrand Dugrin, directeur de l'ONF Berry-Bourbonnais. Sur les parcelles jeunes, plus d'1 million d'arbres par hectare rivalisent pour l'accès à la lumière. 200 ans plus tard, il n'en restera qu'une centaine. On laisse la concurrence s'effectuer et on parie sur les gagnants, poursuit-il. Au bout de 10 à 20 ans, les forestiers opèrent de profondes éclaircies entre les arbres sélectionnés, dits « arbres objectifs », en maintenant une distance d'au moins 10 mètres entre eux. Certaines espèces sont conservées, comme le hêtre ou le charme, amateur d'ombre. Les autres essences servent de gainage aux chênes en les empêchant de faire des branches horizontales qui formeraient des nœuds sur le bois du tronc, souligne Émeric Albert à la tête du département commercial bois de l'ONF. Quand ils atteindront l'âge respectable de 200 ans, les chênes seront abattus. Au sol, la nouvelle génération est déjà en formation. Au tronçais, 50 hectares sont ainsi renouvelés chaque année. Cette maîtrise guidée de la croissance d'une forêt est à l'image de la devise du forestier. Imiter la nature, hâter son œuvre. Seules quelques équipes savent abattre ces vénérables chênes. Le moment de la coupe n'est pas pris à la légère. Loin des images de déforestation à coups de pelleteuse, les débardeurs et les élagueurs appliquent précautionneusement les consignes de l'ONF pour ne pas abîmer le reste de la forêt de tronçais. C'est une étape délicate. Si l'arbre se brise en 1000 morceaux, il ne vaut plus rien, prévient Émeric Albert. Il existe moins de 10 équipes en France capables d'abattre des arbres de cette qualité. De nouvelles essences résistantes à la chaleur sont testées. Forestier est un métier singulier où chaque individu hérite du travail et des décisions de ses prédécesseurs et doit à son tour se projeter dans le futur. Pour assurer la transmission, l'ONF documente précisément toutes les actions menées sur chaque parcelle. Ce que nous faisons aujourd'hui aura des résultats dans 2 siècles. Relève Yves Ducot, chef de l'inspection générale à l'ONF. Seuls nos successeurs pourront évaluer la justesse de nos choix. Le savoir-faire de l'affûté régulière vient d'ailleurs d'être inscrit en juin 2022 à l'Inventaire national du patrimoine culturel immatériel de la France. Cette inscription nous permet de faire connaître notre savoir-faire et d'expliquer le cœur de notre mission au grand public qui se montre souvent inquiet de nous voir abattre des arbres anciens, explique Émeric Albert. L'été dernier, la chaleur et surtout le manque d'eau ont fragilisé les plus vieux arbres et certains ont commencé à être attaqués par les insectes. Des lots qui auraient pu attendre encore 10 ans ont été mis à la coupe pour éviter leur destruction. Pour préparer la forêt du futur, une forêt plus résiliente, plus résistante aux dérèglements climatiques, l'ONF a mis en place des îlots d'avenir. Sur ces petites parcelles, de nouvelles essences sont testées. Des chênes du sud de la France, plus adaptés à la chaleur, des séquoias, des calocèdres, un conifère californien. Nous ne savons pas les usages qui seront faits du bois que l'on travaille aujourd'hui, souligne Bertrand Dugrain. On élargit la palette des possibilités d'évolution pour laisser des pistes d'action aux forestiers de 2070. La forêt de demain prend donc racine dès maintenant. C'était « Comment on élève une forêt ?» un texte de Frédéric Boursicot, paru en janvier 2023 dans le numéro 503 du magazine « Ça m'intéresse ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.